Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui Najwa Benfella, directrice régionale adjointe à la Banque des Territoires d'Île-de-France. Bonjour.
Bonjour Myriam, merci pour votre invitation.
Alors, on a rarement reçu la Caisse et la Banque des Territoires, même peut-être jamais, on va dire. Parce qu'effectivement, nous avons l'impression, dans ce monde de l'immobilier, que c'est une grande dame, une grande maison, la Banque des Territoires, et qu'il est compliqué de comprendre de quelle manière se fait l'investissement sur le territoire. Alors, j'aimerais bien qu'on essaie comme ça, rapidement, de parler un petit peu de votre métier, et surtout de l'adaptation entre la partie, on va dire, économie, banque, économie, la partie des territoires, et surtout de quelle manière on arrive à trouver le fil conducteur du bon investissement, surtout en Île-de-France.
Et vous avez 4 heures. merci beaucoup. Alors, peut-être très brievement, au sein du groupe Caisse des dépôts, parce que je vais parler d'une toute petite partie de l'immobilier,
bien sûr.
Caisse des dépôts qui fait du développement territorial. Finalement, le métier qu'on a dans une direction régionale à la Banque des Territoires, c'est de faire émerger des projets. Voilà, c'est un peu basique comme ça, dit comme ça. Et pour ça, on a plusieurs outils. On a l'outil de financement, je pense que c'est un des sujets sur lesquels on est très connu. Donc là, c'est notre métier de la banque, classique, je dirais. Financeur du logement social, on est très identifié dessus. On a un métier autour des notaires, puisque en fait, on a le dépôt des notaires, donc on accompagne les notaires à ce niveau-là.
Ça aussi, on va dire que c'est connu.
On connaît bien. Ouais. Et puis, on a peut-être un métier qui se connaît moins bien, qui est notre métier d'investisseur.
Ouais, c'est pour ça qu'il est nécessaire de vous expliquer un petit peu cette partie-là.
Et donc, sur ce métier investisseur, finalement, moi, j'ai deux grands enjeux. Je vais parler très basiquement comment j'identifie un projet. Il faut qu'il contribue soit à la transition écologique et énergétique. Bon, vous me direz, il n'y a plus grand-chose qui ne rentre pas dedans. Soit à la notion de cohésion territoriale et sociale. Donc, c'est vrai que du coup, autour de ces deux enjeux-là, je peux me positionner en tant qu'investisseur, donc auprès d'acteurs souvent institutionnels, mais surtout de porteurs de projets, en réalité.
D'accord. Donc, ça peut être des privés.
Complètement, c'est majoritairement des privés. C'est rarement la sphère publique, sauf quand on est dans une société d'économie
mixte. Et quand
mixte.
C'est des privés, l'investissement de la Banque des Territoires, elle est quand même gérée par un certain pourcentage, je suppose. Vous n'êtes pas
partie prenante. Non, on est toujours minoritaire. On a toujours une politique d'investissement minoritaire parce que notre sujet à nous, très clairement, c'est de dire il faut qu'on fasse émerger des projets. Mais dès lors que les projets fonctionnent et que du coup, ils sont liquide, pardon pour ce terme horrible, liquide et rentable, à ce moment-là, ils doivent retrouver le marché et nous, on doit pouvoir redéclencher d'autres activités ailleurs. C'est un peu ça le sujet, c'est comment on fait émerger un temps et une fois que ça aboutit à maturité, bah, j'ai envie de vous dire que moi, j'ai plus rien à y faire, il faut que je réemploie pour aller redévelopper d'autres initiatives sur le territoire.
Alors, par exemple, aujourd'hui, sur un sujet qui est quand même extrêmement important, qui nous sommes dans une crise, on va arrêter de le dire parce que j'avoue que je suis un peu fatiguée du sujet, mais sur le problème du foncier, de son usage, de sa mutation, de la manière dont les choses se sont formalisées d'une manière un peu classique pendant des années et des années où des propriétaires privés ou publics vendaient leur terrain, il y avait des projets qui se développaient. On voit que il y a une transformation absolument énorme, que les territoires, les élus veulent de plus en plus participer à cette mutation. Comment vous faites pour les accompagner ou pour justement faire en sorte que ces idées, ces projets se rattachent à des fonciers?
Alors, c'est vrai que du coup, on a une vraie évolution des réflexions autour de la notion du foncier. Voilà. Quand avant, on avait tantôt des collectivités qui disaient « moi, je veux tout garder, et donc je veux la maîtrise », versus des collectivités qui disent « non, c'est à la force privée de pouvoir s'exprimer ». Aujourd'hui, on a des réflexions un peu plus diverses sur finalement l'usage du foncier. C'est ça qui revient beaucoup dans le vocable des collectivités, c'est « je vais en maîtriser l'usage ». Parce que pendant 40 ans, ça peut être de l'activité économique, mais dans 40 ans, je vais peut-être devoir faire une zone différente qui pourrait être une zone d'habitation en attendant dépendant d'eux, etc. Ce qu'on va faire déjà, pour répondre à la question, c'est qu'on va être à l'écoute. Et surtout, on va essayer de ne pas plaquer, alors c'est pas facile, des schémas tout faits et se dire, il y a peut-être plein de sujets différents et peut-être qu'il faut qu'on revoie un certain nombre de dispositions de montage juridique, peut-être qu'il faut qu'on revoie une manière de se rémunérer, peut-être qu'il faut qu'on repense la valeur du foncier à un sujet qui, moi, m'est cher, qui est de se dire, est-ce qu'un foncier renaturé vaut vraiment zéro ou c'est de la perte de valeur et un coïncidé?
Grand sujet.
Et moi, je suis persuadée dans ma casquette investisseur que c'est une valeur réelle et que nous ne savons pas encore l'apprécier, et je trouve ça intéressant que beaucoup commence à se pencher sur la question et nous-mêmes, parce que en réalité, ça va devenir essentiel. Et donc, du coup, on se pose un tas de questions en restant extrêmement ouvert et en n'étant pas fermé.
Alors, on a sentiment, effectivement, alors là, je vous rejoins à 100% sur le foncier, je dirais, qui, quelque part, ne génère pas des droits à construire, mais qui a une valeur intrinsèque, ne serait-ce que celui de respirer, de nous aider à respirer, qui est quand même extrêmement importante. On a le sentiment, tout de même, que toutes ces étapes vont être très, 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 très longues, que tout ça, ça va prendre beaucoup, 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 beaucoup de temps, et que un mandat, c'est un mandat. Alors, comment fait-on pour pouvoir, au-delà du premier mandat, du deuxième mandat, par exemple d'un élu, d'un maire, ou même sur d'autres types d'élections, comment fait-on pour faire perdurer cette réflexion? Comment fait-on pour mettre en place des schémas où vraiment, sur des fonciers clairement identifiés, on a cet accompagnement?
Ah, alors du coup, comment on fait pour pas que la politique vienne perturber les enjeux? Je crois que sur un certain nombre de sujets qu'on défend aujourd'hui, on est très clairement au-delà de l'idée politique.
Tant mieux.
Donc, ça veut dire que quand on s'inscrit de façon long terme sur l'aménagement d'une zone, vous pouvez avoir des aménagements à la marge de, finalement, j'ai pas envie de tant de bureaux, j'ai envie de tant de ci, etc. Et vous le savez, il faut être rompu à l'exercice et être relativement souple pour laisser la main quand même programmatique à un moment donné au territoire qui va de toute façon en bénéficier. Mais je dirais que finalement, il faut que nous fassions l'effort collectif de se dire qu'est-ce qui est dans le dur et qui lui va perdurer. Et là, je crois encore une fois que c'est au-delà du politique et des enjeux, parce qu'à un moment donné, l'aménagement d'une zone, sa réflexion, la manière de muter les éléments, de construire, d'avoir des modes constructifs différents, d'amener des services localement de façon extrêmement précise et anticipée, parce que, nous n'avons été que percutés il y a 3 ans. Je ne suis pas sûre que les usages que nous mettons aujourd'hui dans nos opérations étaient strictement les mêmes. Mais c'est vrai que du coup, il faut avoir cette forme de souplesse pour perdurer. Et donc pour ça, il faut aussi avoir parfois le courage d'aller sur remonter le risque. Moi, je suis investisseur et donc ça veut dire que parfois, il va falloir que j'accepte que je ne vais pas sortir dans 7 ans, mais peut-être dans 15. Mais parce que c'est utile, mais parce que du coup, ça dit quelque chose, parce qu'il y a du risque. Alors, je vais peut-être me planter.
Bien sûr, parce que personne ne sait si dans 7 ans ou dans 15 ans, le sujet sera
mais c'est notre
abordé
métier.
De la même manière.
J'ai tendance à considérer... Prendre du risque, c'est mon métier. C'est pour ça que je suis rémunérée. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit assez courageux pour, à un moment donné, avoir des convictions qu'on partage sur le territoire et, encore une fois, faire la part de l'idéologie et faire la part, effectivement, de l'aménagement au sens noble du terme et ancien, qui est de s'inscrire dans la durée.
Alors, est-ce que c'est pas cette idée de peut-être se poser, profiter de cette crise pour faire équipe, pour faire sens, pour travailler ensemble, au lieu de travailler chacun dans nos métiers respectifs? Est-ce que quelque part, ça permet pas de prendre un risque qui soit mesuré à la hauteur des compétences de chacun aussi?
Alors moi, je rejoins Myriam sur une chose. Je pense qu'au début de ma carrière, les dossiers arrivaient à la fin quand tout était bouclé. Vous preniez pas. C'était magique. Vous aviez suffisamment, vous choisissiez. Ensuite, on a commencé à remonter la chaîne de valeur. Donc, on a des investisseurs qui se sont un peu pris pour des promoteurs qui ont monté, qui se sont pris pour des aménageurs. En fait, on mélange comme ça. Je pense qu'on est aujourd'hui, on a une étape où tout le monde essaye d'entendre les besoins des uns et des autres, mais je crois pas qu'on soit encore à l'étape de la coopération ultime. Mmh. Encore trop de fois, on se dit c'est pas la place de l'investisseur d'avoir cet échange, etc. Et on construit les programmes de façon silotée. Moi, je crois à la coopération, non pas pour prendre la place de l'autre, mais pour apporter chacun ce qu'il sait faire le mieux. Moi, je sais exploiter un immeuble, dire comment il va fonctionner, avoir les critères de rentabilité qui vont me permettre de faire mon métier, qui est donc d'investir ailleurs. Je pense que l'architecte a une vision spécifique de la manière de penser la ville, des matériaux, de l'ensemble des éléments. Le maire, il a sa vision de ses concitoyens, de ses besoins et de l'ensemble des services qu'il a à avoir.
Aujourd'hui, vous avez des vrais exemples sur lesquels vous vous dites, tiens, ça c'est formidable, ce sujet, on va pouvoir faire équipe et on va pouvoir le porter avec tous ses partenaires.
J'adorerais vous en citer un concret, immédiat. Malheureusement, je ne serai pas très honnête, il y a des tentatives. Il y a évidemment des tentatives dans des sujets qu'on fait, mais finalement très peu. Et je crois que le seul que j'ai aujourd'hui peut-être en tête, c'est peut-être l'initiative qu'on a développée avec la SNCF, pardon, qui s'appelle Toit Temporaire Urbain, sur cette question du modulaire déplaçable. Donc, qui vient à un moment donné poser la question de comment je peux avoir l'usage de terrains temporaires avec un très bel.
Ça veut dire c'est des friches SNCF.
Ça peut être
quelque part perdu au milieu des rails.
Ça peut être. En fait, c'est tout terrain libre temporairement. Et en fait, en réalité, il y en a beaucoup.
Parfois, le temporaire, il dure une éternité.
Exactement. Mais l'idée, c'est de vraiment prendre le pari de partir. C'est justement répondre à cette question des collectivités qui disent « Oui, mais ça va se transformer en toujours. Et puis moi, j'en veux pas, etc. » Et c'est plutôt de leur dire « Saisons l'opportunité. »
Ça va être un squat. Et puis,
saisissons l'opportunité de tester des usages, après tout. Saisissons l'opportunité de se dire « Est-ce que cet endroit-là, finalement... » un local d'activité, une maison d'accueil, c'est OK ou c'est pas OK. Et donc, finalement, ça a obligé à se dire, OK, je veux construire un truc qui se déplace vraiment. Donc, c'est du modulaire. Donc, c'est du hors-site. Comment je travaille et avec un entrepreneur qui va fabriquer et avec des archis. Et on a lancé un partenariat d'innovation qui a mené tout ce monde-là et l'investisseur et l'usager et l'ensemble des éléments pour se poser la question, finalement, de comment on fait pour construire. Et je crois que là, pour moi, c'est le moment, alors vous me direz, c'est pas sur un site précis, mais c'est sur une initiative, mais c'est le moment où tout le monde s'est exprimé. Tout le monde a donné ses éléments.
Et alors aujourd'hui, comment on passe au concret ?
Comment on passe au concret ? Bah déjà, on libère ses chakras, en fait. On se dit que c'est possible. Ce qui est difficile, c'est de revoir des méthodes de travail. En réalité, je crois que c'est... On pourrait opposer des lois, de la modification législative, mais pardon, vous le savez comme moi, Myriam, si on rentre dans le champ législatif, on va pas y arriver. Par contre, on est capable de définir sur un site une envie de travailler autrement, et je crois qu'il n'appartient qu'aux acteurs aujourd'hui d'avoir une vision différente de leur métier et de coopérer et pas systématiquement d'essayer de prendre la place de l'autre.
La joie. Je pense qu'on a fait une partie de l'interview, surtout la première. On se retrouve la semaine prochaine pour faire la deuxième. Qu'en pensez-vous ?
Avec plaisir.
Merci, chers auditeurs, et à bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.